والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En 5 minutes إن شاء الله on va essayer d'aborder un thème extrêmement important. C'est un thème qui pour le musulman est une protection, c'est un rempart contre les tentations de Shaytan, contre l'envie de faire des péchés, mais c'est en même temps quelque chose qui va booster, qui va donner l'envie aux musulmans d'accomplir le maximum de bonnes actions. Et si on arrive à intégrer cette chose en nous, ben nous serons les grands gagnants. Car face aux a'mal salihah, face aux bonnes actions, nous serons toujours les premiers. Nous aurons toujours envie de faire plaisir à Allah. Et face au péché, nous aurons toujours cette crainte d'Allah. Parce que la crainte d'Allah, c'est quelque chose qui doit être développé. Durant le mois de Ramadan, on a entendu peut-être 15 ou 20 bayan qui parlent que l'objectif, qui disent que l'objectif du Ramadan, du somme de Ramadan, c'est atteindre la taqwa. Donc on comprend que la taqwa, on ne naît pas muttaqi. On peut naître musulman. D'accord ? On peut naître musulman de parents musulmans. Vous voyez ? Ou alors on peut se convertir à l'islam, c'est-à-dire acquérir le iman en une fois. Mais la taqwa, c'est quelque chose avec lequel on ne se réveille pas un matin, ou alors on n'obtient pas de la part des parents. C'est quelque chose qui se travaille. La taqwa, c'est quoi ? On le rappelle, c'est la crainte d'Allah. C'est arriver à un stade où chaque chose que je vais faire, chaque parole que je vais prononcer, chaque pas que je vais faire dans un endroit, bon comme mauvais, je suis conscient et totalement conscient avec yaqin, certitude, qu'à ce moment précis, Allah Ta'ala me voit. Et non seulement Allah me voit, mais Allah m'observe. Et Allah Ta'ala a mis avec chaque être humain deux anges. Un qui écrit les bonnes actions et un qui écrit les péchés. Et si on a cette conscience, ce n'est pas des choses compliquées, il n'y a pas besoin de bayan de deux heures de temps pour ça, mais si chaque musulman a cette prise de conscience que chaque parole que je vais prononcer, chaque geste que je vais faire et chaque pas que je vais accomplir sur la terre, c'est noté par les malaïka et ces actions me seront présentées le jour de Qiyamah dans mon livret des a'mal salihah. Et dans le verset qu'on a lu ce soir de l'Isha et qu'on lit très souvent, Allah Ta'ala dit « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومْ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ » C'est un verset qu'on a peut-être entendu beaucoup de fois, mais si seulement la réalité entrait dans nos cœurs, on deviendrait les plus pieux des musulmans. On deviendrait les plus pieux parmi les musulmans. De ce verset, Allah il demande aux musulmans de faire confiance en Al-Aziz, celui qui a l'honneur, et Al-Rahim, celui qui a la pitié, la rahma pour les musulmans. Et Allah Ta'ala dit que « Alladhi yaraka hayna taqoum » Ce Allah, ce Rabb qui te voit lorsque, en ce sens, dans la nuit, le musulman se lève pour faire la salat, Allah Ta'ala il voit. Wa taqallubaka fi sajidin, lorsque ce musulman de la nuit se réveille, il fait le sijda, Allah Ta'ala également il voit. Et ce qu'Allah Ta'ala voit, il ordonne aux anges d'écrire et ses actions restent écrites jusqu'au qiyamah, jusqu'à ce qu'on voit nos livrets de compte. Et même si nous on a oublié nos bonnes actions, mais Allah n'a pas oublié. Si on demandait à quelqu'un, quel amal, quelle bonne action tu as fait, Laylatul Qadr de 1996. C'est pas ça, il faut oublier ça. C'est-à-dire que cette année, je sais, j'ai fait une heure de namaz, 30 minutes doigt, 10 minutes tasbih, je me souviens. Mais ça, 1991, 1975, on connaît même plus ça. Est-ce qu'on était réveillé, on n'était pas réveillé? Mais Allah n'oublie pas. Et les anges qui sont censés écrire ces bonnes actions, eux aussi n'oublient pas. Et Allah n'est pas injuste avec les gens, il rétribue comme on a fait. Ça, c'est pour les choses positives. Maintenant également, il faut être conscient que tout ce qu'on accomplit comme péché également, c'est noté par les anges et Allah Ta'ala, il sait ce qu'on fait et ses actions ne seront présentées le jour de Qiyamah. Alors cela concerne tout d'abord les paroles qu'un être humain peut dire, comme Allah Ta'ala dit au Coran, « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » Il n'y a pas une parole qui est prononcée donc par le musulman sans qu'il y ait « raqibun atid » Il y a des muraqib, des contrôleurs, des personnes qui surveillent et qui donc inscrivent ces paroles prononcées, comprenées par ces contrôleurs, ces raqib, ce sont les malaïka. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne avait posé cette question il y a deux jours, hier, a dit que voilà, on a entendu dans un hadith qu'il y a une personne qui durant toute sa vie, elle peut faire des bonnes actions qui le rapprochent du paradis, mais avant de mourir, son nom est inscrit parmi les gens de l'enfer, il fait une action des gens de l'enfer. Il dit comment c'est possible? Il dit que Allah seul le sait, Mais parmi les raisons, il y a un hadith que le prophète a dit que parfois un homme, un musulman, comprenez, quand je dis un musulman, c'est une musulmane aussi, c'est clair, hein, un musulman, il peut dire une telle parole qui est tellement détestable par Allah, que tellement Allah n'aime pas cette parole, que cette parole précipite ce musulman dans les plus profonds trous de l'enfer. On peut avoir le plus haut degré de piété comme on veut, mais il est possible parfois qu'on ait dit une parole tellement mauvaise, des propos racistes ou alors quelque chose qui a vraiment atteint notre prochain, que Allah a tellement détesté cette parole qu'on peut être au plus haut degré de bonnes actions, de piété, et Allah il fait chuter cette personne par cette parole. C'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la langue: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et en le jour du jugement dernier, comprenez que cette formule est utilisée pour celui qui a la réelle iman de son cœur. Celui qui a le vrai iman de son cœur, alors ça c'est un nasihat. Quand il commence comme ça, il va dire quelles sont les qualités du vrai mu'min. C'est-à-dire celui qui n'a pas cette qualité, tant qu'elle n'a pas cette qualité, elle n'aura pas kamal l'iman. Le iman ne sera pas complet de son cœur. Et c'est quoi la qualité citée? Falyakul khayra. Si elle parle, c'est pour dire quelque chose de bien. Ou alors que cette personne se taise. Parce que tout ce qui est en dehors des paroles profitables, c'est néfaste. Si on regarde bien dans notre vie, dans le temps de parole, c'est-à-dire dans le parole que nous disposons de la journée, il y a peut-être 20% de bien, et puis tout ce qui n'est pas bien là-dedans, il y a souvent des ribats, il y a souvent des bohtans, c'est-à-dire des calomnies, des accusations, des mauvaises pensées, des paroles désobligeantes envers les gens. Si on fait un tri, la moitié de nos paroles sont contre nous. C'est pour ça que le professeur dit que si vous avez quelque chose à dire, donc dites quelque chose de bien, ou alors il est mieux de garder au maximum le silence. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut jamais plaisanter. Car dans certains hadiths, on a des exemples que le professeur plaisantait avec les sahaba, mais toujours veiller à ne pas blesser notre prochain, à ne pas calomnier quelqu'un, à ne pas accuser quelqu'un à tort, c'est-à-dire contrôler ses paroles, sa langue d'une telle manière qu'on est sûr que soit on dit quelque chose de bien ou alors quelque chose qui ne sera pas à notre encontre. Contrôlez donc ses paroles, contrôlez ses gestes sans l'expliquer et également contrôlez le cœur. Là aussi, un musulman se doit de faire un travail intérieur sur son propre cœur pour enlever tout ce qu'il y a comme péché intérieur. C'est long à expliquer, mais il y a deux catégories de péchés. Les ulama disent qu'il y a Al-ma'asiyah bil-jawarih, les péchés qu'on accomplit avec les membres. Boire de l'alcool, écouter de la musique, regarder le haram, ou alors parler, dire des choses, des paroles mauvaises, etc. Marcher vers un autre haram. Ça, c'est les mauvaises actions qu'on fait avec nos membres. Après, il y a ce qu'on appelle a'mal al-qalb. Et pour les bonnes actions aussi, il y a pareil. Salat, zakat, etc. C'est avec les membres. Maintenant, les actions du cœur. Les bonnes actions du cœur, c'est quoi? La confiance en Allah, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah 100%, la sincérité. Ça ne se voit pas à travers les gestes. Ça, c'est ancré dans le cœur. De la même manière, les péchés. Là aussi, on doit regarder, examiner, est-ce que, même si en apparence, je fais que des bonnes actions, mais est-ce que intérieurement, je n'ai pas des péchés en moi? La jalousie, l'orgueil, l'ostentation, hein, etc., le manque de sincérité, avoir d'autres niyats qu'on fréquente les gens, etc., etc. Tout ça, ce sont des péchés et Allah est conscient de ses péchés. Right? Donc, le musulman contrôle ses gestes, contrôle sa parole et le musulman contrôle son cœur et essaye de faire son tazkiya, sa propre correction, enlever tout ce qui est mauvais dans son cœur. Comme Allah dit au Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allah dit que nous avons créé l'être humain. Allah dit qu'il faut comprendre que c'est lui qui a créé et c'est lui qui connaît mieux ce qu'il a créé. Personne ne connaît l'homme comme Allah. Même l'être humain ne connaît pas l'homme, ne se connaît pas comme Allah. On n'arrête pas de faire des découvertes sur le plan scientifique, sur la médecine, etc. Mais il n'y a pas que ça. Même les psychologues, les psychiatres. Maintenant, regarde, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des pédopsychiatres, il y a des psychopédagogues. Il y a quantité de professions qui parlent de l'intelligence humaine, du psychisme. Et on n'arrête pas de faire des découvertes de jour en jour sur les capacités du cerveau, le conscient, le subconscient, le préconscient, l'inconscient. Mais Allah, il vous dit qu'il connaît mieux l'être humain. Et Allah dit, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Et nous savons ce que son nafs, ce que son intérieur lui insuffle comme mauvaise pensée, comme envie de faire les péchés. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah Ta'ala dit que nous sommes plus proches de lui que Al-Hablul Warid, c'est quoi? C'est la veine jugulaire. C'est-à-dire cette veine qui est dans le cou. Il y en a même dit que cette métaphore est la plus rapprochée dans les deux sens du terme, car il n'y a pas quelque chose de plus proche que l'homme que son artère.
C'est-à-dire qu'Allah est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Allah, il connaît tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons et chaque parole que nous prononçons. C'est pour ça que le prophète sallam a dit, donc en conclusion, que le vrai musulman, le plus haut degré de iman, c'est quoi ? An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Que le musulman qui atteint le plus haut degré de foi, c'est celui qui a la pensée d'Allah tout le temps. Le matin, le soir, Ramadan, en dehors du Ramadan, le week-end, samedi soir, lundi, Fajr, en permanence. Je contrôle mes paroles, je contrôle mes gestes, je contrôle tout ce que je fais et j'ai conscience que Allah me voit en permanence. Et c'est ça le ihsan, adorer Allah comme si qu'on voyait Allah. Et si on ne voit pas Allah, on ne voit pas Allah, être conscient que Allah me voit en permanence. Si quelqu'un, il peut mettre ça dans sa vie de 24 heures, alors c'en est fini de ses péchés. Même si vous êtes en train de rouler dans votre voiture, vous passez à un endroit, vous voyez une femme étrangère qui est belle, elle est jolie, vous avez envie de regarder. Il n'y a personne à droite, personne à gauche. Il n'y a pas de moulissable, il n'y a pas de personne qui va dire que oui, vous tenez regarder à madame. Mais vous vous dites tout d'un coup que ben, Allah me voit à ce moment précis et ce péché sera inscrit dans mon livret. Et autre chose qu'on n'a pas précisé, mes propres membres témoigneront contre moi le jour de Qiyamah. Donc par crainte d'Allah, par crainte de son châtiment, je m'abstiens de ses péchés. Ça, c'est quelqu'un qui a atteint le ihsan. Il est conscient qu'Allah le voit en permanence. Et atteindre le ihsan dans les bonnes actions, c'est comment ? Que quand je fais namaz, c'est comme si que je suis devant Allah. Ce n'est pas que je suis pressé pour partir ou autre chose, c'est que je suis conscient que je suis devant Allah. Et si on regarde bien, l'objectif de la salat, c'est quoi ? À chaque action, il y a des maslahs, il y a des règlements, mais le maqsad, l'objectif, c'est quoi ? C'est que dans la salat, comme je contrôle tout ce que je fais, si dans la salat je parle, mon namaz est annulé. Si dans la salat je fais trop de gestes, ma salat est annulée. Si dans la salat je marche, je vais ailleurs, je détourne ma poitrine du qibla, ma salat est annulée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable d'intégrer dans la vie de 24 heures. Je me contrôle entièrement pour Allah. Comme dans la salat, je contrôle mon corps et ma pensée, la pensée aussi, pour Allah, j'ai la pensée d'Allah en permanence. Dans la salat, de la même manière, en dehors de la salat, avoir toujours conscience qu'Allah me voit et de cette manière je ne peux pas faire de péché et donc je ne peux pas non plus négliger une obligation. Et à chaque fois qu'il y a possibilité de faire une bonne action, je serai le premier, sachant que mon Rabb me récompensera le jour de Qiyamah. Et on terminera en disant ce dernier point. Vous savez, peu de gens, peu de musulmans, ils connaissent vraiment comment Allah est grand. On dit tout le temps Allahu Akbar, Nazan Allahu Akbar, Takbir Allahu Akbar, dans le Hajj Allahu Akbar, Allahu Akbar, tout le temps Allahu Akbar. Mais c'est quoi Allahu Akbar ? Comprenez le terme Akbar, Allah est le plus grand. On citera que deux hadiths pour comprendre la grandeur d'Allah. Parce qu'il y a un hadith que « Inna samawati sab'a wal aradina sab'a bin nisbati lil kursi ka halakatin ulqiyat fi falati min al ard. » Le Prophète essaie de nous faire comprendre qu'on ait une idée de la grandeur d'Allah. Il dit que les sept cieux et les sept terres comparés au kursi. Au kursi, c'est comme une bague qu'on a jeté dans un champ. Et il y avait d'autres hadiths qui précisent plus encore que le premier ciel par rapport au deuxième ciel, c'est comme une bague qu'on a jetée dans un champ. Le deuxième par rapport au troisième, c'est comme une bague qu'on jette dans un champ. Qu'est-ce que ça représente ? Un milliardième. C'est une métaphore pour montrer que vraiment ça ne représente rien. Et ainsi de suite, le troisième est minuscule par rapport au quatrième, au cinquième, au sixième et au septième ciel. Et maintenant, comparer les sept cieux, les sept terres, par rapport au kursi, c'est pas encore le arche d'Allah, c'est le kursi, c'est comme exactement le même exemple, même métaphore, une bague que vous prenez, vous jetez dans un terrain vague ou sur un champ, vous voyez que ça ne représente rien, si vous le jetez, vous le cherchez, vous ne trouvez plus, ben regardez la comparaison entre les cieux, la terre et le kursi. Et maintenant, le prophète décrit le arche d'Allah, le trône. Wa inna fadla al-arshi 'ala al-kursi ka fadli al-falati 'ala hadhihi al-halaqa. Et maintenant le prophète prend la métaphore inverse. La grandeur du arsh d'Allah, le trône d'Allah par rapport au kursi, c'est comme ce champ là par rapport à la petite balle qui a été jetée. Lorsqu'on comprend ça, on comprend comment le prophète décrit que auprès du trône d'Allah, il y a des anges que entre sa nuque et son oreille, il y a une distance de je ne sais combien de milliers, si je ne me trompe pas, c'est soit le ciel et la terre, ou alors combien de milliers d'années de voyage. Comprenez que si entre sa nuque et son oreille, c'est quelque chose d'inexplicable, mais c'est quoi la grandeur de cette nuque? Et comment nous, on peut désobéir à Allah alors que des anges comme ça, ils sont dans l'adoration d'Allah en permanence, soit en ruku, soit en sijda, soit en train de faire les louanges d'Allah. Donc qu'on comprenne comment Allah est grand et comment Allah est puissant. Et de cette manière, inshallah, face au péché, on va essayer de s'abstenir. Qu'Allah Ta'ala me donne à moi-même, il y a tout ça au fait de comprendre, de faire un mal, de pratiquer et de propager à nos mères et à nos sœurs. Et on rappelle qu'il reste encore à peu près 17 jours pour terminer les Shawwal. En tout cas, plus de la moitié du mois. Si quelqu'un n'a pas pu faire ses 6 Shawwal, il faut absolument profiter des jours qui restent avant que le Shawwal ne se termine. Car on le rappelle, et on rappellera sans cesse jusqu'à la fin du Shawwal, celui qui, après avoir complété son Ramadan, jeûne 6 jours de Shawwal, Allah Ta'ala lui accorde la récompense de l'année tout entière passée dans le jeûne, dans le Ramadan, dans le Sawm, dans le Rosa, dans le Karem. Donc on ne peut pas laisser cette occasion passer. Inch'Allah, on fait le niyat tous avec fermeté, qu'avant que le mois de Shawwal ne se termine, je vais essayer de jeûner 6 jours, même si ce n'est pas 6 jours consécutifs, un jour je jeûne, 3 jours je ne jeûne pas, de telle manière qu'avant la fin de Shawwal, on complète, qu'Allah nous accepte et nous choisisse pour cela. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakum khair.